le livre de l'Exode. Nous sommes dans le chapitre 2 et nous reprenons notre lecture au chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, » lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux ». Et nous lirons en même temps dans Hébreux, un passage qui a trait à Moïse, Hébreux 11, verset 23, lisons tout le passage qui concerne Moïse, 11, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Moïse, donc, grandit. Le Dieu qui veille sur l'enfant, dont la vocation est préparée, et dans le conseil de Dieu, va conduire toutes choses afin que cet enfant soit d'abord confié à sa propre mère. C'est Dieu qui le veut. Dieu a tout dirigé dans ce sens, et cette mère va donc être la nourrice qui sera même rétribuée par la fille du Pharaon. Non seulement elle élèvera son propre enfant, mais elle aura même des subsides pour le faire. En recevant son propre enfant sauvé de la mort, selon la confiance qu'elle avait mise en l'Éternel, Jochébed, la mère de Moïse, put reconnaître la main de Dieu et adorer ce Dieu dont la fidélité et la sagesse sont si grandes. Vous pensez, n'est-ce pas, lorsque l'on a mis sa confiance en Dieu, lorsque l'on est allé loin même pour mettre sa confiance en Dieu, naturellement, dans les choses qui sont elles-mêmes conformes au plan de Dieu et conformes à la volonté de Dieu, ou conformes à la loi de Dieu, eh bien, lorsque l'on voit que l'on a eu raison, tellement raison, d'avoir confiance en Dieu, que Dieu a agi, est intervenu, alors quelle joie, évidemment, l'on peut ressentir dans son cœur et quelle reconnaissance ne manifeste-t-on pas à ce Dieu si fidèle. Le prophète Ésaïe écrit ceci, « Admirable, et son conseil est grand et sa sagesse. » On devrait le savoir par cœur, ça. « Admirable, et son conseil est grande et sa sagesse. » C'est dans Ésaïe 28, chapitre 28, le verset 29. L'enfant resta plusieurs années auprès de sa vraie mère, car le verset 10 se traduit de la manière suivante, au lieu de dire « quand il eut grandi », il y a une autre traduction tout à fait possible, « l'enfant devenu grand ». Et c'est la traduction que donne la version Zadokan, « l'enfant devenu grand ». Ce n'est donc pas un enfant de 1 an et demi, 2 ans que Jochébède remet à la fille du Pharaon, mais un enfant devenu déjà grand. Quel âge, nous ne pouvons pas le dire, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'est important de le noter, Moïse va donc tout de même grandir un peu dans sa propre famille, sous les soins de sa propre mère. Et c'est là en effet, qu'il reçut les semences de la foi israélite. Et Dieu le voulait, cela. Par conséquent, il a pu avoir quelques années, lorsqu'il fut remis, peut-être 6 ans, peut-être 7 ans, peut-être 8 ans, nous ne pouvons pas le savoir, mais il est resté auprès de sa mère un temps suffisamment prolongé, Dieu a voulu cela, pour qu'il puisse recevoir connaissance de la foi israélite. Ensuite, adopté par la fille de Pharaon, et adopté, il l'était déjà en principe, mais pris par la fille de Pharaon, qui l'introduit dans sa maison, il reçut alors une éducation égyptienne et une formation qui pouvait considérer comme une formation supérieure. C'est ce que note le livre des Actes, au chapitre 7, verset 22, « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. » Il fut instruit dans toute la sagesse. Le mot « sagesse » ici, n'est-ce pas, ne l'oublions pas, a le sens qu'il prend dans le grec ancien, c'est-à-dire dans toute cette connaissance de bon équilibre, utile à l'homme, utile à la bonne, au bon comportement de l'homme. Voilà, n'est-ce pas, l'idée qu'il y a dans le terme sagesse ancien. Il fut instruit donc dans toute la connaissance des Égyptiens. Et la connaissance était considérée comme précisément donnant à l'homme cette sagesse. Et il était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole et en œuvre. C'est Étienne ici qui parle ainsi, il ne veut pas dire qu'il était déjà, par ses paroles, le porte-parole de Dieu. Hein. Il savait discourir, il avait appris sans doute une rhétorique, et en œuvre il savait faire beaucoup de choses. Il avait appris à faire beaucoup de choses, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a pris, par exemple, on peut le savoir par l'histoire de l'Égypte, l'égyptologie, il a pris le calcul, le dessin, l'histoire, la géographie, un peu de médecine, la musique, les Égyptiens apprenaient tous ceux qui étaient cultivés, la musique, et il fut initié aussi à la religion égyptienne, cela n'est pas douteux. Il apprit aussi le droit et l'art de gouverner. Bien sûr, étant dans la maison de Pharaon, il apprit toutes ces choses. Mais par la foi, nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, Moïse repoussera l'orientation à laquelle cette brillante éducation le destinait. Il n'en voudra pas. Il était là en bonne direction pour jouer un rôle important dans le royaume de l'Égypte, mais non, il va abandonner tout cela. Nous avons lu à la fin du verset 10 ce que la fille de Pharaon lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc le nom de Moïse signifiait cela, retirer ou retirer des eaux. En effet, le mot Macha, on pense que le nom de Moïse vient du mot Macha, qui signifie retirer. Mais il est à noter que dans la tradition israélite, on a toujours vu en Moïse celui qui a été retiré en effet des eaux, mais la pensée allait plus loin. Retiré des eaux hostiles et meurtrières pour être le premier sauvé, en effet, des Israélites, le premier né en Égypte. Et en cela, voyez, Moïse apparaît encore comme la figure du Messie. En dehors, on peut le dire d'ailleurs, du nom de Jésus, celui de Moïse est le plus grand dans la Bible. Nous avons, par exemple, le Deutéronome 34, la fin du Deutéronome 34, versets 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voyez par conséquent que Moïse, le nom de Moïse, hein, ou la personne de Moïse, n'est-ce pas, bien sûr, en dehors de celle de Jésus-Christ, eh bien, est la plus grande, la personne qui est allée le plus haut, si vous voulez, le nom le plus grand en Israël. Et un jour, je me trouvais dans une société israélite, au milieu d'Israélites et d'Israélites qui pratiquaient la religion. Il y avait même président du consistoire qui était là. Et nous étions ensemble dans une grande pièce. C'était à l'occasion d'un deuil et on était tenus là. Moi, je devais être là et eux, ils le devaient aussi. Et bien entendu, ils savaient bien que j'étais chrétien. Cela les gênait un peu, pas mal même, et le président du consistoire vient se planter un moment devant moi, j'étais assis, et il me dit, « Monsieur, voulez-vous me dire quel est le plus grand prophète ?» Et il me regardait là. Je lui réponds, « Monsieur, c'est Moïse. » Ah oui. Il a été déconcerté sur le moment, il s'attendait que je lui dise c'est Jésus. Et alors, après un petit temps de silence, je lui dis, oui, c'est Moïse. Et Moïse a annoncé Jésus. Moïse a annoncé celui qui, comme lui, viendrait, qu'il faudrait écouter. Alors, il a repris sa marche, il ne m'a plus rien demandé. Nous allons lire maintenant du verset 11 au verset 25. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Jéuel leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershon, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Moïse se rend vers ses frères et le livre des Actes, chapitre 7, c'est-à-dire cette relation que fait Étienne, nous apprend qu'il était alors âgé de 40 ans. 40 ans. Il se rend vers ses frères, c'est de ce côté qu'il se sent attiré. Et c'est déjà pour Moïse le premier exode. C'est-à-dire le premier départ, c'est déjà un départ, c'est un signe de sa vocation. Il n'est pas le frère des Égyptiens. La culture qu'il a reçue en commun avec les Égyptiens, cette culture ne peut pas faire de lui le frère des Égyptiens. On n'est pas frère par une culture que l'on a reçue, mais son frère... ceux que Dieu donne comme tel. Pour être frère, il faut que cela vienne de Dieu. La démarche de Moïse auprès de ses frères va provoquer, sans qu'il l'ait voulu, une rupture avec l'Égypte. Cette démarche, c'est ça, déjà, la rupture avec l'Égypte. N'y a-t-il pas rupture, séparation, à l'amorce de toute marche avec Dieu, dès que l'on ressent en soi l'appel de Dieu et que l'on répond à cet appel, me voici, ou dès que l'on se met à suivre le Seigneur Jésus parce que l'on a été appelé, il y a une séparation, immédiatement une séparation. Pour suivre la vocation divine, la vocation du chrétien, n'est-ce pas, surtout celle-là que nous avons en vue, il faut d'abord accepter une rupture. Le monde, c'est l'Égypte pour nous. Le monde nous a vu naître, il nous a nourris, il nous a instruits, il nous a communiqué sa civilisation, mais un jour, le Seigneur nous a appelés hors de Ecclésia. C'est le sens de Ecclésia. Appelés hors d'eux. Nous, le Seigneur, nous a fait sortir du monde pour nous consacrer à son service. Ça, c'est l'expérience. Et l'expérience chrétienne doit avoir pour départ cela. Si elle n'a pas cela, elle n'est pas authentique. Et la séparation, qui ne sera pas nécessairement, bien sûr, une séparation physique, autrement dit, comme dit l'apôtre Paul, il faudrait mourir, il faudrait s'en aller, n'est pas une séparation physique, nous ne sommes pas séparés du monde, nous n'allons pas faire comme dans les siècles passés, nous enfermer dans des couvents. Ce serait d'ailleurs guère possible en ce temps. Mais cependant, nous sommes séparés de l'esprit du monde, de la culture, si vous voulez, du monde, de sa pensée, de ses préjugés, de ses orientations. Nous sommes séparés de lui. Et séparés du monde tout en vivant avec lui, nous sommes séparés déjà par une destinée qui s'attache à nous et qui n'est pas celle du monde. Le monde, s'il reste le monde, les hommes qui resteront du monde, resteront le monde, iront à la perdition, cela n'est pas douteux. Et lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, au contraire, une autre destinée intervient, s'attache à nous, elle est à l'opposé de celle du monde. Rappelons-nous qu'Abraham a quitté Charan, où était sa famille, pour obéir à l'appel de Dieu. David quittera lui aussi ses brebis, il aimait son petit troupeau, ses brebis, le foyer paternel. Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, quitte lui aussi sa position sociale et religieuse par une rupture. Il y a eu une rupture. L'Église n'est-elle pas le peuple élu? Le peuple appelé et qui est assemblé hors des structures du monde et de l'esprit du monde. L'Église, c'est cela, Ecclésia. Moïse est donc amené à rompre avec le passé. Il suit une direction intérieure dont il n'est pas encore tellement conscient. Il va là où son cœur l'attire, et dans son cœur, c'est la foi qui détermine ce mouvement. Son cœur l'attire, c'est-à-dire sa foi l'attire hors de sa condition présente. Moïse ressent un attrait caché pour ses frères. Il sait que c'est le peuple de Dieu. Il le sait. Et déjà, il se sent poussé à tout lui sacrifier. Mais que voit-il? Il n'était jamais venu vers ses frères, vers le pays de Gozen. Et que voit-il? Il voit ses frères dans une condition dégradante et injuste, inhumaine. Puis soudain, un fait qui va être déterminant surgit. C'est un Égyptien qui frappe un Hébreu d'entre ses frères. Intérieurement révolté, Moïse voit cet Égyptien maltraiter l'un de ses frères, alors il ne se maîtrise plus, il frappe, il tue et cache sa victime. Et le texte nous dit bien, il regarde de côté et d'autre, il prend des précautions, et il ne fait donc pas cela uniquement sous l'empire d'une impulsion, mais tout de même, il y a de sa part ce qu'on appellerait aujourd'hui en droit une préméditation. Il y a une préméditation en lui. Il frappe et cache sa victime. Il se sent donc identifié avec l'hébreu opprimé et non pas avec l'égyptien. Il a 40 ans, il a toute la culture égyptienne, il est dans la société égyptienne, il y était estimé, il y était à l'aise. Eh bien non, il n'a rien de commun avec les Égyptiens. Il vient en somme de changer de camp et il retrouve le sien. Comme lorsque nous venons à Jésus-Christ, chers amis, nous retrouvons la véritable position de l'homme. Le lendemain, Moïse revient. Et là, il va constater un autre fait non moins douloureux, peut-être davantage même encore que celui de la veille. Il va constater la méchanceté de ses frères entre eux. Il voit deux Hébreux se quereller, il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et celui-là lui répond, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et c'est là ce qui détermine sa fuite. Mais là, il se rend compte que ce n'est plus la méchanceté de l'oppresseur qui se manifeste. Il n'avait vu que cela la veille, la méchanceté d'un oppresseur sur un pauvre peuple, un peuple pour lequel son cœur se sentait rempli de compassion. Ce n'est plus la méchanceté de l'oppresseur, mais c'est l'opprimé qui est méchant, lui aussi. Les opprimés sont aussi des méchants. Le cœur de ses frères n'est pas meilleur que celui des Égyptiens. Ils devraient au moins entre eux avoir cette commisération, cette solidarité dans la souffrance. Non, ils se querellent durement entre eux. Et Moïse va même constater quelque chose de plus. Il va constater que son propre cœur n'est pas bon. Il n'avait pas pensé à ça jusque-là. Son propre cœur n'est pas bon. Il a en lui la violence. Il a accompli en toute conscience un meurtre et il a pris des précautions. Mais voici que maintenant il a peur, il est saisi par la peur, il a en lui la violence, il a le meurtre, il a la peur, il a exactement tout ce qu'ont les autres hommes, il n'est pas meilleur, il n'est pas meilleur que les autres. Et cela Moïse va le constater, même avec son désir de justice, Moïse constate qu'il est inapte à sauver son peuple. Inapte. Il fait déjà là une très grande expérience, une expérience saisissante qui le remue. L'oppresseur est méchant, mais ses frères et lui-même le sont autant, le sont aussi. Ah, chers amis, c'est cela que nous constatons dans le monde des hommes. Bien sûr, on voit la méchanceté, elle se donne libre carrière du côté des oppresseurs. Mais les opprimés ne sont pas meilleurs, ne sont pas meilleurs. Et celui qui veut se camper comme un libérateur, lui non plus n'est pas meilleur. Alors, comment peut-on devenir le justicier, le libérateur des opprimés? Alors, pour le devenir, Moïse commençait par employer lui-même la violence, une violence plus grande. Mais Moïse se rend compte qu'il n'est même pas accueilli de ses frères qui répondent à son geste par l'ingratitude, il n'a même pas autorité parmi ses frères. Moïse n'est pas prêt à être ce justicier et ce libérateur. Il n'est pas prêt, il ne peut pas, il le constate. Il n'a que les moyens de l'homme, il n'a que la violence de l'homme. Il ne peut pas être libérateur. Il fallait qu'il constate cela. Dieu voulait cette expérience. Elle est déterminante. Elle est importante dans la carrière de Moïse. Et disons qu'elle est importante dans la carrière de tout chrétien. Constater que par ses propres moyens, qu'en agissant selon l'homme, selon les pensées de l'homme, il ne faisait rien de bon. Allez-vous constater, chers amis, cela ? Avec les moyens de l'homme, rien. Ah, on veut quelquefois faire, on voudrait faire une œuvre bonne. Non. L'œuvre que fait Moïse, eh bien, elle ajoute une faute et une cause de dureté à celle qui désolait son peuple. Les commissaires vont recevoir des ordres pour être encore plus implacables sur le peuple hébreu. Voilà ce à quoi l'action propre de Moïse a pu aboutir. Chers amis, dans le monde, tous ceux qui se sont proposés comme libérateurs dans tous les temps et dans toutes les circonstances, ils sont arrivés à quoi ? Ben, ils sont arrivés au malheur du peuple qu'ils prétendaient délivrer. Voyez un Hitler, il a parlé lui aussi de libération, de délivrance. Il a même parlé d'un temps de 1000 ans de bonheur. Et à quoi est-il arrivé ? À ce que l'Allemagne soit divisée en deux, son pays a été coupé en deux, et il a abouti à occasionner le plus grand malheur. Devient-on l'auxiliaire de Dieu, son serviteur, sans passer par des expériences qui préparent, qui forment le cœur, qui rendent possible, chers amis, qui rendent possible les actions de l'esprit par l'homme de chair. L'homme de chair est impropre à servir Dieu. Alors il faut passer par des expériences, par une préparation. Dieu veut préparer, il prépare toujours ceux dont il va se servir, pour précisément pouvoir accomplir des actions de l'esprit qui ne sont pas de l'homme, qui ne sont pas propres à l'homme, par l'homme de chair. C'est ça le grand art de Dieu. Et par conséquent, tous ceux qui se proposent pour servir Dieu, par exemple, dans l'église, pour faire quelque chose, alors qu'ils n'ont pas été préparés, ceux-là vont aller vers un désastre. Et en tout cas, ils feront certainement du mal et non du bien, et en tout cas, ils ne serviront pas Dieu. Il faut penser à ces choses, chers amis. Ça, ce sont des choses que j'ai dites aux élèves du centre de formation biblique où je vais de temps à autre. Il faut le savoir. Je l'ai dit chaque fois que je l'ai pu à des jeunes. Attention, vous n'êtes pas apte, même si vous avez été appelé de Dieu, même si vous vous sentez rempli d'un puissant désir de servir Dieu, c'est bien d'avoir ce désir. Mais attention, attendez-vous aux expériences par lesquelles Dieu va vous faire passer. N'agissez pas de vous-même, ne partez pas de vous-même, de votre propre chef. Attendez que Dieu vous prépare et commencez par de petits commencements. Vous voyez que nous sommes loin, n'est-ce pas, des entreprises, de tous ceux qui veulent de grands bâtiments, qui veulent une grande association, de la publicité pour commencer une œuvre de Dieu. Tout cela est absolument vain. La véritable œuvre de Dieu, elle débute par des petits commencements. Dieu aime les petits commencements, car il faut, je vous le répète, préparer les hommes dans des expériences que Dieu seul peut situer et donner et conduire pour préparer les hommes à accomplir des actions de l'esprit par le moyen de ce qu'ils sont hommes de chair. Moïse, qui a étudié jusqu'à 40 ans les sciences humaines au cœur d'une civilisation qui était très avancée, beaucoup plus avancée souvent que nous ne le pensons, la civilisation égyptienne. Il a étudié jusqu'à 40 ans, il devra subir une formation de 40 ans dans le désert en présence de Dieu seul. Je ne dis pas qu'il en est toujours ainsi quantitativement aujourd'hui pour tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, le temps presse, c'est certain. Mais de toute manière, il y aura un temps de préparation. 40 ans dans le désert en présence de Dieu seul. Il sera amené à apprendre à servir le Seigneur par le Seigneur et non pas par l'homme. Ça, il faut l'apprendre. Et il faut que nous tous, chrétiens, nous l'apprenions cela, chers amis. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Il y a, bien sûr, un emploi qui est donné à cette expression concernant ceux qui ont le ministère, mais dans un sens élargi, nous sommes tous serviteurs. Si nous sommes des témoins de Christ, nous servons le Christ, nous servons Dieu. Mais attention, vous avez reçu un baptême de l'Esprit, et il y a une plénitude du Saint-Esprit qu'il faut constamment rechercher, parce que vous ne pouvez pas servir le Seigneur autrement que par le Seigneur. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas avec moi, si je ne suis pas avec vous, vous ne pouvez rien faire. Servir le Seigneur par le Seigneur. Apprenons cela, chers amis, et évitons par conséquent dans l'Église de faire des désastres, comme le font immanquablement toutes les personnes qui veulent agir par elles-mêmes. Oh, ils veulent agir parce que elles ont une certaine autorité propre, elles se sentent le moyen de parler, de dominer sur les autres, n'est-ce pas? Alors elles agissent par la chair, elles font du désastre, elles déchirent l'œuvre de Dieu, c'est tout ce qu'elles font. Chers amis, servir par le moyen d'une plénitude de Dieu. Non, je ne dis pas le baptême du Saint-Esprit seulement, parce que, n'est-ce pas, il y a une grande insuffisance dans la connaissance généralement répandue au milieu de nos assemblées. Ah, j'ai été baptisé de Saint-Esprit, j'ai été baptisé d'eau telle date, j'ai été baptisé du Saint-Esprit telle autre date. Bon, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Non, non, chaque jour, tu dois t'assurer si tu as la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est pas parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, et je suppose un baptême réel, pas un baptême du Saint-Esprit effectif, réel, pas non seulement signalé par un parler en langue au moment, mais un baptême du Saint-Esprit qui va se manifester ensuite, il y a un arrière-plan du baptême du Saint-Esprit, sans quoi que serait ce baptême. Et alors là, n'est-ce pas, rappelons-nous que les apôtres eux-mêmes sont revenus au pied du Seigneur, pour dire, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Il l'avait déjà été. C'est au chapitre 4 des Actes, il l'avait été au chapitre 2. Il redemande à être rempli. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, soyez remplis du Saint-Esprit. Je sais que vous avez été baptisés. Je pouvais dire ça, oui, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Mais moi, je vous dis, soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Chers amis, pour agir, il faut ça. Au sens quoi, c'est l'homme qui agit. Et l'homme ne peut faire que du désastre. L'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur. Moïse va donc apprendre cela pendant 40 ans. Il apprendra à dépendre de Dieu seul. Il sera dans la condition qui convient. Il aura une condition de proscrit, une condition de faiblesse. Qu'est-il? Au service de ce sacrificateur de Madian, Jéthro, et il conduit les brebis de Jéthro, elles ne sont pas les siennes, il est berger, il est employé. cherché, j'ai trouvé. Il vit comme tous les autres. Il n'a rien de remarquable. Il n'a rien de plus que tous ceux qui servent. Il sert. Il est dans une humble condition, alors qu'il était déjà un grand personnage en Égypte. Il est là, faible, proscrit, car il est proscrit. S'il revenait vers l'Égypte, il serait arrêté et sans doute exécuté. Il a tout perdu de ce qu'il avait dans le monde. Il est pauvre, il a tout perdu, et il va pouvoir devenir, pendant ses 40 années de préparation, il va devenir une force de Dieu. Voilà ce que Dieu fait, chers amis. Voilà comment Dieu agit. Voilà ce qu'il faut que nous sachions pour nous-mêmes. Longtemps après, nous est-il dit, le roi d'Égypte mourut. Longtemps après. C'est-à-dire, dans un temps qui fut long. Ça, c'est encore une autre traduction. Dans un temps qui fut long, le roi d'Égypte mourut. Le récit de ce chapitre 2 nous montre d'abord Moïse allant vers ses frères à l'âge de 40 ans. Puis, il nous montre sa fuite vers le pays de Madian, et lorsque Dieu l'appellera, au début du chapitre 3, nous verrons cela, lorsque Dieu l'appellera, Moïse aura 80 ans. Et cela, c'est encore le chapitre 7 des Actes, au verset 30, qui nous le précise. Il aura 80 ans. Il s'est donc passé 40 ans, et c'est ce qui explique au verset 23, longtemps après, après un long espace de temps. Il s'est passé 40 ans, et pendant ce délai, les enfants d'Israël souffrent toujours de la servitude, ils en souffrent même plus lourdement encore. Leur condition est devenue pénible à l'extrême, et ce peuple réalise qu'il est écrasé et qu'il ne sortira jamais, semble dire toute analyse humaine, il ne sortira jamais d'une si pénible condition. Il est là, un peuple esclave, sous la férule égyptienne, et l'Égypte est une grande puissance. À vue humaine, on ne voit pas que l'Égypte puisse lâcher quoi que ce soit. C'est une grande puissance, c'est la grande puissance du monde d'alors, et ce peuple est écrasé par cette puissance, impossible d'échapper. Il faut se résigner, il faut la pâtir, il faut mourir sur place. Il n'y a pas de délivrance possible, de délivrance envisagée. Le peuple est bien enserré dans sa captivité, c'est le mot, dans sa captivité, placé sous une servitude qui ne s'allégera jamais d'elle-même. L'Égypte est cette maison de servitude dont parle l'Écriture, l'expression est assez fréquente dans l'Écriture, maison de servitude. Pourquoi cette expression maison de servitude est-elle fréquente? Parce qu'elle nous dit quelque chose, chers amis. Non pas quelque chose simplement de descriptif, mais elle nous dit quelque chose du dessein de Dieu. Maison de servitude. Homme, tu es dans une maison de servitude. Le monde est pour toi une maison de servitude. Ta propre condition d'homme pécheur, ta captivité est une maison de servitude. C'est pourquoi dans l'Écriture, qui est la révélation de Dieu? Il y a souvent cette expression. Je dis, bien, ce n'est pas à titre descriptif seulement. Personne ne peut ôter un tel joug. Personne, absolument personne ne peut délivrer ce malheureux peuple d'Israël. Personne, sauf Dieu. Sauf Dieu. Sauf ce Dieu trop oublié. Ce Dieu que l'on oublie lorsque l'on est dans l'aisance, dans le bien-être, lorsque l'on chante, l'on rit, l'on danse, l'on se réjouit. On oublie Dieu. C'est bien ce qui arrive maintenant, mes amis. C'est bien ce qui nous arrive. On oublie ce Dieu-là. On l'oublie. Et Dieu le voit. Dieu le sait. Nos cœurs l'oublient, ce Dieu. Bien sûr, nous parlons de lui. Bien sûr, nous nous réunissons en son nom. C'est vrai. Mais réellement, examinons chacun notre vie. N'avons-nous pas, pour une grande part, oublié notre Dieu? Nous l'oublions parce que nous sommes trop bien. Nous sommes trop bien. Nous nous installons. Et comme disait un prophète, nous avons des maisons lambrissées. Aujourd'hui, nous avons des maisons où le confort est si doux, si agréable, avant tout ce qu'il nous faut. Alors, nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui délivre. Nous n'avons pas besoin, nous l'oublions. Il faut être sous l'oppression, comme le sont nos frères, nos sœurs dans certains pays, sous l'oppression, pour revenir vraiment de tout son cœur à ce Dieu. Mais puissions-nous y revenir cependant, maintenant, sans attendre ce temps? Et Dieu seul peut changer cette terrible fatalité sous laquelle ploie le peuple d'Israël. Mais Dieu paraît ne plus agir. Il y avait au milieu du peuple, cela n'est pas douteux, des prières. Les prières habituelles, les prières de chaque jour, ce peuple avait conservé des habitudes de prière. Mais ces prières habituelles ne sont pas exaucées. Il y en a tant aujourd'hui de prières sur la terre qui ne sont pas exaucées, au point que, chers amis, dans les formes traditionnelles du christianisme, que ce soit le protestantisme ou le catholicisme ou autre chose, on a l'habitude de prier sans s'attendre à l'exaucement. Ah, j'ai toujours eu ce sentiment, n'est-ce pas? Jusque longtemps, je l'ai gardé. Je suis resté attaché à mon église catholique. Je ne connaissais pas autre chose, qu'est-ce que vous voulez, comme beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, on faisait les prières. Il y avait des événements, quelquefois pénibles, douloureux. Il fallait faire des prières. Alors, on participait aux prières. On ne pensait pas du tout à l'exaucement des prières. Alors, le peuple qui se rend compte que son Dieu n'intervient pas, va crier à lui, il va pousser des cris. Ah, chers amis, ne retirons rien de ce que nous dit le texte ici. Il poussait des cris, et ces cris, ils leur étaient arrachés par leur servitude. Ces cris montent jusqu'à Dieu, ce n'est pas que Dieu soit sourd, et qu'il faut crier pour qu'il entende. Mais Dieu veut entendre des cris parce que les cris correspondent à une attitude des cœurs, à une vérité. Ils correspondent, ces cris, à une vérité. Autrement, il n'y avait point de vérité. Il n'y avait point de vérité dans ces malheureuses prières coutumières. Il n'y avait pas de vérité. Dieu ne pouvait pas répondre à ça. Ah, mais maintenant, quand alors, n'est-ce pas, on en est arrivé sous le fardeau de la servitude, sous la souffrance, dans la douleur, dans la détresse, à crier à Dieu, alors là, oui, il y a de la vérité. Voilà où ça commence, la vérité. La vérité dans le fond des cœurs, elle commence là. Autrement, les attitudes étaient des attitudes convenues et non des attitudes de vérité. Et chers amis, prenons garde qu'au milieu de nous, il n'y ait point de ces attitudes convenues, que la prière ne soit point une attitude convenue. Il faut de la vérité. Dieu veut trouver la vérité au fond des cœurs. Et il veut la trouver au fond des cœurs, il veut la trouver dans la prière particulièrement. La vérité, il faut que la prière soit vraiment l'expression d'une pleine vérité. Il y a de la vérité là, au moment où il y a des cris. C'est maintenant une clameur de détresse qui monte vers le ciel. Et l'union du peuple, le peuple, voyez-vous, se querellait, nous l'avons vu, il y avait des dissensions. Quand on est assez à l'aise, et tout de même le peuple pendant un temps a eu des pots de viande, comme il nous est dit, des légumes à satiété, il avait tout de même une nourriture assez abondante, et cette nourriture abondante, il la devait, malgré cette servitude, à tout de même la compassion de Dieu. Eh bien, alors, à ce moment-là, il y avait des dissensions au milieu du peuple. On se déchirait, on se querellait volontiers. Il y avait de l'inimitié. Mais là, voici que l'union se scelle. L'union se scelle dans la détresse. L'union se fait et c'est alors cette bruyante imploration qui monte d'un peuple tout entier vers Dieu, un peuple tout entier qui pleure et qui crie. Et chers amis, cette situation, bien sûr, nous devons la méditer, la considérer, car il nous est donné comme une situation type. Lisons le psaume 107. Lisons ce psaume 107, ce beau psaume 107, et verset 10, je ne lis qu'une partie du psaume, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance. Voyez-vous ce que Dieu fait sur son peuple d'Israël là. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux, leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Là, Dieu ne va pas envoyer sa parole, mais il va envoyer Moïse. Mais il va envoyer Moïse porteur de sa parole. Il va envoyer sa parole tout de même. Ah, et c'est là encore, chers amis, que nous voyons à quel point extraordinaire Moïse est la figure du Messie. Et c'est pour ça que son nom est grand. Il est la figure du Messie. Il va être porteur. Nous verrons que l'Éternel, le Seigneur, va lui donner un nom, lui donner son propre nom à porter, n'est-ce pas? Et puis, il va lui dire, eh bien, toi, tu tiens la place de Dieu. Tu vas tenir la place de Dieu. Il envoya sa parole. Il ne peut pas envoyer le Messie lui-même, c'est trop tôt, ce n'est pas le moment de Dieu pour envoyer le Messie, Messie qui va apporter la grande délivrance à toute la terre. Mais il envoie celui qui en est la figure. Oh, vous voyez comme Dieu veut nous parler et voulait parler à ce peuple d'Israël, mais nous parle aussi à nous par ce récit de Moïse. Ces choses, voyez-vous, sont conçues, organisées par le grand Dieu des cieux. Dieu, nous est-il dit, entendit, au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Dieu entendit et Dieu se souvint. Dieu entendit, on peut traduire aussi Dieu connu. Dieu connu. Dieu avait laissé cette servitude s'appesantir sur le peuple et devenir criante. Il avait laissé cette servitude agir jusqu'à ce que le peuple soit obligé de crier comme a crié le sang d'Abel assassiné par son frère Caïn. Ce que nous voyons dans le chapitre 4 de la Genèse, ce sang qui crie de la terre jusqu'à Dieu, comme crie le malheur des opprimés, les opprimés qui n'ont d'autre recours que Dieu et qui crient. comme les gémissements des captifs dont nous parlent les psaumes, notamment le psaume 79, le psaume 102, les gémissements des captifs qui crient à l'Éternel. C'est leur secours, leur unique secours. Ils crient à l'Éternel. Dieu a laissé la terre crier, son peuple crier. Et Dieu entendit. Pourquoi Dieu attend-il que le malheur soit si pesant, que le péril soit si imminent, la mort si proche pour intervenir et pour délivrer? N'aurait-il pas dû le faire plus tôt pour épargner des souffrances à ce peuple? Et pourquoi? Bien sûr, Dieu aurait voulu, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, ce n'est pas volontiers qu'il laisse un peuple ployer sous la douleur et la souffrance. Mais si Dieu l'a fait, c'est parce que la sagesse de Dieu le voulait. La sagesse de Dieu qui est au service de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu n'est pas un simple mouvement spontané comme nous le connaissons, nous les hommes, un mouvement de l'âme. Pas du tout. La miséricorde, elle emploie la parfaite sagesse de Dieu. Et il faut que les hommes soient confrontés avec la mort, avec l'inéluctable issue du monde pécheur. N'oublions jamais que les hommes sont un monde pécheur, avec l'inéluctable issue du monde pécheur, avant d'être ramenés à la vie par le Dieu qui a la puissance de ressusciter les morts. Nous sommes un monde pécheur, un monde rebelle, ne l'oublions pas, et malgré cela, Dieu a résolu de nous sauver. Mais il faut qu'il laisse, à certains moments, ce peuple toucher la mort, être confronté avec la mort, s'ouvrir pour qu'il soit ramené à la vie. Le goût de la mort, l'approche de la mort ne peuvent être épargnés à des hommes dont la rébellion appartient et ancrée dans toutes les fibres de leur être, dans toutes leurs entrailles. Ils ont des entrailles de méchanceté, de rébellion. Et on le voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Alors il faut laisser la mort s'approcher. Ils ne sauront pas s'humilier autrement. Et la puissance du péché ne cédera que dans la mort, que devant la mort. Et encore, devant la mort, pas toujours, dans la mort, disons. Car il faudra un baptême. Il faudra un baptême en Moïse, qui lui aussi sera la figure d'un autre vrai baptême, grand baptême en Jésus-Christ. Un baptême en Moïse, puis un baptême en Jésus-Christ. Il faudra un passage par la mort pour parvenir à la résurrection qu'est toute vie libérée de la puissance du péché. Mes amis, il faut cela et Dieu, voilà la sagesse de Dieu. La voilà, la sagesse de Dieu. Il le sait. Alors, c'est pourquoi il va laisser ce peuple pâtir si longtemps. Et nous n'oublions pas cela, chers amis. Si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous vivons aussi avec lui. N'est-ce pas? Si nous échappons à la mort, nous échappons à la vie de résurrection. Et il faut bien penser que non seulement au cours de notre repentance, nous sommes vraiment, nous avons goûté la mort, nous avons été crucifiés avec le Seigneur. J'aime ces repentances qui sont éclatantes, si je puis dire, qui sont totales, qui soulèvent une personne et qui font dire à cette personne, je suis perdu, je suis un homme horrible. C'est bien, goûte la mort. Et sois crucifié avec ton Sauveur, parce que tu vas ressusciter avec lui. C'est ça l'expérience. L'homme pécheur restera pécheur s'il ne passe pas par le feu de la mort, par l'épreuve de la mort. Et Paul de dire, je le rappelle souvent, j'ai été crucifié, je suis crucifié avec le Seigneur Jésus, et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, c'est sa vie qui est là en moi. Dieu se souvint de son alliance. Alors là, nous allons encore poser une question un petit peu hardi, allons dire, Dieu avait-il oublié? Dieu avait-il oublié cette alliance? Non, Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien, ni personne. Mais ce souvenir en hébreu, dans la Bible particulièrement, prend le sens d'intervenir. Dieu se souvint, Dieu intervint. Dieu va intervenir. Dieu voit le moment venu où il va agir. Lisons dans Exode 6, versets 5 et 6. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je me souviens, ça veut dire, je suis prêt à intervenir. Voilà ce que ça veut dire. Les mots ont quelquefois une portée particulière dans la Sainte Écriture. Puis il est dit aussi que Dieu regarda les enfants d'Israël. Au verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ou Dieu vit les enfants. Certaines versions disent, porte Dieu vit. Dieu prend en charge les enfants d'Israël et ses compassions vont s'exercer. Ce regard est un regard de compassion, comme le regard de Jésus sur les foules qui l'entouraient, un regard de compassion. Il était ému de compassion et cette compassion va être le mobile de l'intervention de Dieu, le mobile, le seul mobile de l'intervention de Dieu. Dieu entendit, Dieu se souvint, Dieu regarda. Voilà ce que portent ces derniers versets du chapitre 2. Et ces termes montrent que la souveraineté de Dieu reste intégrale dans sa perfection et son absolue sainteté. Dieu ne peut être ni forcé, ni contraint, ni obligé à quoi que ce soit, à quelque action que ce soit. Aucun mérite, quel qu'il soit, ne peut déterminer Dieu à agir. Il faut que sa souveraineté reste hors de toute prétendue contrainte. Son amour, ses compassions seront les seuls mobiles qui le détermineront librement à intervenir dans ce monde du péché. Vous me direz, mais pourquoi Dieu se drape-t-il dans cette souveraineté dont il est si jaloux qu'il ne veut absolument pas qu'aucune atteinte, qu'aucune restriction ne soit apportée à cette souveraineté? Elle doit rester absolue, entière. Pourquoi Dieu est-il ainsi? Et je vais vous le dire. Il y a une raison, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est juste, mais Dieu est amour. Tous les termes du récit de l'Exode vont nous montrer que la souveraineté de Dieu demeurera entière. Et ça, nous avons besoin de le savoir. Comme tout à nouveau, la souveraineté de Dieu demeurera entière. J'ai vu la souffrance du peuple. Je t'enverrai auprès de Pharaon, toi Moïse. Je serai avec toi. Je ferai trouver grâce à ce peuple. Je serai. La souveraineté de Dieu doit être entière. Alors pourquoi? Eh bien, chers amis, voici la raison. Tout ce qui se débat sur la terre, même lorsque c'est une œuvre que Dieu a amorcée, comme c'est ici le cas, il s'est donné un peuple, la famille patriarcale qui s'est développée, voilà un peuple de Dieu en formation, sous la servitude en Égypte, c'est bien Dieu qui a, en somme, voulu que ces circonstances existent. Eh bien, tout ce qui se fait, tout ce qui se débat sur la terre est le combat de la lumière et des ténèbres. et particulièrement dans le livre de l'Exode, où, n'est-ce pas, l'on va voir Moïse et Aaron se heurter avec le Pharaon endurci. C'est bien le combat de Dieu contre les ténèbres et ce combat cosmique aux dimensions immenses continue, chers amis. Bien sûr, la victoire est là, remportée. La victoire est remportée car Dieu est hors du temps. Il l'a remportée avant, je peux dire, la fin de ce combat. Mais ce combat sévit encore et il va entrer dans les phases finales très bientôt. Alors tout ce qui se fait sur la terre appartient à ce combat de la lumière et des ténèbres. Or, le monde des ténèbres ne peut pas commander à la lumière. Et il ne peut pas monter de la terre, même avec raison, une obligation vers Dieu. Ce serait une obligation qui monterait du monde des ténèbres, qui viendrait de ce combat vers Dieu. Aucune obligation. Le Seigneur Jésus lui-même, porteur, qui est chargé de l'accomplissement des desseins de Dieu et qui par conséquent, lui, va ménager aussi la pleine souveraineté de son Père, le montrera bien. On ne peut pas obliger. On n'oblige pas Dieu, n'est-ce pas ? Le monde des ténèbres ne peut pas commander à la lumière. Ce qui est imparfait ne peut pas régir celui qui est parfait. Mais par contre, quand la souveraineté de Dieu est seule à agir, et laissons-la seule agir, chers amis, sur nos vies, laissons-la seule, seule, n'ayons aucune pensée qui restreigne, tant soit peu, la souveraineté de Dieu, ne disons pas même, c'est à cause de ma foi que je suis sauvé. Chers amis, la souveraineté de Dieu est entière. Il faut qu'elle soit entière. Et quand elle est ainsi entière, quand c'est d'elle seule que vient toute œuvre, toute action, tout secours, alors l'œuvre est parfaite. Venue de la souveraineté de Dieu, l'œuvre est parfaite. Si elle venait d'un autre, d'une autre raison, d'une autre cause, d'un autre canal, en supposant qu'elle vienne par une contrainte faite à Dieu, l'œuvre serait entaché d'imperfection. Et Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi ? Parce que lui seul est l'absolu, lui seul est le parfait, le saint des saints, le trois fois saint, et lui seul peut faire une œuvre parfaite, une œuvre d'éternité. Que son nom soit béni. Amen. Amen.